Chapitre 19. Le marquis de la Galoche disait vrai en racontant que sa ménagerie tout entière avait péri dans l'incendie. Ses loups, qu'il appelait pompeusement des chacals, des tigres, des léopards, ses caniches, qu'il appelait des lions, des hyènes, des panthères, ses poules enluminées, qu'il appelait des perroquets, des colibris, ses peaux de serpents gonflées d'étoupes, ses peaux de renard bourrées de foin, ses 20 autres mensonges, à 2 ou 4 pattes, tout cela avait été rôti. Il avait en outre perdu la plus grande partie de son bagage, sa grande charrette, ses instruments de musique, sa pharmacie, son matériel d'escamoteur et son attirail de fantasmagorie. Quelques misérables guenilles à moitié roussies, une lanterne magique, des gobelets de fer blanc, un orgue de barbarie, son petit singe et les 2 rosses efflanquées qu'il appelait son bucéphale et son pur sang, voilà tout ce qu'il avait pu sauver du désastre. Et cependant, cette perte, qui compromettait ses derniers moyens d'existence, ne lui causait plus le moindre souci depuis que le géant lui avait parlé à l'oreille. « La nuit n'a pas été heureuse, s'écria-t-il. Mais enfin, à la guerre comme à la guerre. Si on se jetait la tête contre les murs à chaque vexation qui arrive, on aurait le front trop cabossé. En avant la philosophie et le petit verre de cognac. Buvons. Et puis, il y a un proverbe qui dit « Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Nous serons certainement plus heureux aujourd'hui. Et d'abord, comme je vous l'ai insinué déjà, nous sommes loués pour donner une représentation dans une maison bourgeoise à l'agrément d'un particulier dont c'est le jour de fête. C'est pour nous un beau coup de commerce, bien logé, bien chauffé, bien nourri. Sans compter les pièces de 100 sous qui vont nous pleuvoir comme la grêle. Ma foi, ce ne sera pas de refus. Soyez donc gentils et je vous promets pour tôt ou tard un excellent civet de lièvre. J'ai attrapé à la sortie de ce maudit village un superbe angora qui pourra parfaitement jouer ce rôle, quand je l'aurai suffisamment engraissé. Ce matou-là paiera pour tous ses concitoyens. La vengeance est le plaisir des dieux, surtout quand elle se présente sous la forme d'un civet. J'ai l'animal dans mon sac où il se trémousse comme un possédé. Mais en attendant ce gars-là, partons. Nous n'avons pas de temps à perdre, c'est à 4 lieues. Ce qu'il y a de vexant pour vous autres, c'est d'être forcés d'y aller à pied. Pedibus cum jambis, car vous savez que notre carrosse a rôti. Nous ne pouvons pas tenir tous à la fois sur les 2 coursiers qui nous restent. Je monterai pur sang, madame montera bucéphale. Quant à vous, enfants, vous irez à pattes pour ne pas faire de préférence. Seulement, nous en prendrons quelques-uns en croupe à tour de rôle. Allons, en route, mauvaise troupe. » Les choses se passèrent ainsi. Le marquis de la Galoche prit en croupe les 2 plus jeunes de la bande et en plaça un 3e devant lui sur le cou de sa monture. La reine des îles Salmigondi monta sur l'autre coursier entre 2 sacoches qui contenaient le restant de leur bagage, augmenté de l'angora que monsieur le marquis avait recruté. À en juger par les soubresauts de la pauvre bête, elle paraissait se douter des honneurs culinaires qu'on lui réservait. Pendant le voyage, Jean-Paul et Petit Jacques, qu'on laissa continuellement au nombre des piétons, se fussent communiqués de bien tristes réflexions si la présence de leurs compagnons pédestres ne leur eût fait craindre de dangereuses délations. Nous avons vu combien la longue série d'adversités qu'ils venaient de traverser avait fait impression sur leur caractère. L'épouvantable scène de la nuit précédente ne pouvait qu'ajouter un grand enseignement à tout ce que le sort avait imposé. Plus que jamais, leur repentir était sincère, et à coup sûr, s'ils avaient pu tromper l'active surveillance du marquis de la Galoche, ils eussent fui à l'instant même, ils eussent humblement frappé à la porte de la maison paternelle, prêts à tout châtiment pour obtenir enfin le pardon de leur faute. Mais la fuite était impossible. Ils étaient gardés à vue par l'impitoyable maître qu'ils s'étaient donné. Aussi marchaient-ils tête baissée, larmes à l'œil, silencieux et d'autant plus désolés qu'ils ne voyaient pas de terme à leur affreuse situation. Après s'être embourbés tout le jour par des chemins presque impraticables, comme le sont malheureusement la plupart des chemins de France, on arriva à la nuit tombante près d'une maison de campagne de fort belle apparence, dans un site charmant, au fond d'une longue avenue de peupliers, avec cour, jardin, verger et métairie tout alentour. Le marquis de la Galoche s'écria. Halte, c'est ici. » Il emboucha ensuite sa trompette et fit entendre quelques appels. C'était probablement le signal convenu pour annoncer l'arrivée de la troupe. Cette fanfare produisit en effet une grande sensation dans toute la maison et l'on vit aussitôt des lumières et des ombres traverser en tous sens les appartements. Un homme de haute stature apparut en même temps à l'arrivée de l'avenue sur le seuil de la grille. « C'est bien, dit-il, on vous attend. » C'était encore notre géant. Jean-Paul ne put l'envisager sans frémir, tant il y avait de la fatalité dans les apparitions de ce mystérieux personnage. « Suivez-moi, continua le géant. » Nos voyageurs le suivirent en silence, et chose étonnante, ils ne rencontrèrent personne sur leur passage, quoique de nombreuses voitures fussent remisées dans la cour d'entrée, et que l'éclat des lumières intérieures fit de l'édifice une espèce de palais magique, comme on en voit dans les contes de fées. Nos voyageurs traversèrent la cour, personne. Ils montèrent l'escalier qui illuminait une foule de lampions, personne. Ils traversèrent plusieurs appartements brillamment éclairés, personne, personne. Enfin, le géant les introduisit dans une dernière pièce qui devait servir de vestiaire à la troupe, et il leur dit ces paroles à peu près inintelligibles pour tout autre que le marquis. « Vous y voilà, ce sera par cette porte. » Le géant ouvrit la porte et l'on put voir qu'elle conduisit à une espèce de petit théâtre improvisé sur lequel on montait au moyen d'un escabeau. Ce théâtre, de 8 à 10 pieds de large, consistait en quelques planches recouvertes d'une ancienne tapisserie à personnages. On l'avait établi sur des tonneaux placés debout et on l'avait déguisé sous de grands rideaux de fenêtres artistement plissés. La toile qui séparait la scène des spectateurs était formée de 2 draps de lit qu'on relevait à volonté de chaque côté pour laisser voir sur le théâtre. C'était sur ces tréteaux que la troupe devait travailler selon l'argot du métier. « Vous trouverez ici tout ce qu'il vous faut, » ajouta le géant, et il disparut subitement comme à son ordinaire. « Attention, » dit le marquis de la Galoche, « c'est à présent qu'il faut redoubler d'intelligence. Nous avons perdu nos quadrupèdes, nous n'avons plus de bêtes. » Il s'agit donc de se comporter de façon qu'on s'aperçoive le moins possible de leur absence. Attention au commandement, voici nos rôles respectifs. Moi, je vais manœuvrer du gobelet et montrer la lanterne magique. Je leur en ferai voir de toutes les couleurs. Vous, les enfants, en avant les cabrioles, et ne ménageons pas nos reins. Toi, Panouille, tu vas te détériorer en colosse de Rhodes. Toi, Bibiche, je t'élève à la position sociale de naine. « Quant à vous, mes jeunes élèves, vous êtes des gaillards difficiles à utiliser. Si j'en excepte la grosse caisse et la clarinette, dont vous avez joué tout de suite comme celui qui les a inventés, ma foi, vous n'avez réussi à rien. Je fais de vous des jocrisses. Crac ! Vous vous jetez la tête la première dans des tonneaux de fromage frais. Je vous fais passer pour des polypes, sans bras, sans jambes et sans idiome. Crac ! Vous prenez des crampes au mollet et vous criez comme des ténors d'opéra. Je vous nomme aux fonctions d'anthropophage. Crac ! Vous faites la grimace sur du poulet cru. Je vous habille en ours. Crac ! Vous avez la petitesse de vous sauver devant de misérables caniches. Vous jetez la terreur parmi toutes les cloches et vous mettez toutes les gardes nationales en branle. Enfin, je veux vous régaler des toupes enflammées. Crac ! Vous incendiez tout un département. Vous conviendrez qu'il y a de quoi dégoûter de votre éducation. Or donc, qu'est-ce que vous allez devenir pour le quart d'heure? Eh bien, pour vous donner une nouvelle preuve de mon amitié, je vais vous faire débuter dans les frères siamois. Vous n'aurez rien à dire, vous n'aurez rien à faire, vous n'aurez qu'à vous laisser voir. C'est un véritable état de chanoine. Tel est l'ordre du jour. J'ai dit, rompez les rangs, chacun à son poste. On se hâta d'obéir à l'oukase de l'autocrate. Un tapis rembourré fut étendu d'un côté du théâtre pour les cabrioles des enfants et une table fut dressée de l'autre pour les escamotages du marquis. La reine des îles Salmigondi fit entrer Jean-Paul et Petit-Jacques dans un grand sac où elle les cousit à côté l'un de l'autre de façon à ne laisser passer que 2 têtes et les 4 jambes. On ne voyait donc plus qu'un seul bras de chacun. Les 2 autres étaient restés dans le sac et faisaient partie de ce double individu qu'ils allaient représenter. L'aimable princesse les entoura de quelques vieux lambeaux de soie et les coiffa de mauvais turbans à plumes. Jean-Paul et Petit-Jacques se prêtèrent à cette nouvelle mascarade avec une résignation bien naturelle, après tout ce qui leur était arrivé. Panouille se grandit à la taille des tambours-majors qui font le plus d'honneur à l'espèce humaine. La reine des îles Salmigondi se rabaissa au contraire à la stature d'une enfant de 6 ans par un procédé non moins ingénieux que celui dont Panouille avait usé pour s'allonger de 3 pieds et demi. Chacune de ces curiosités vivantes fut recouverte par le marquis d'une nappe qui ne devait être enlevée qu'au moment de les présenter à la société. Enfin, la lanterne magique fut posée sur le bord du théâtre, de manière que, sans escalader la scène, et grâce à la position inférieure qu'ils occupaient en restant dans la salle, les spectateurs pussent venir coller leurs yeux au large verre du musée portatif. Le petit singe fut placé sur la toiture de ce Louvre, où il exécuta ses gambades ordinaires. Ces divers préparatifs étant terminés, « Attention et place au théâtre !» cria le saltimbanque, en frappant 3 fois du pied sur les planches de la scène pour annoncer au public que le spectacle allait commencer. Cela fait, il se pendit au cou l'orgue de Barbarie qui composait désormais tout son orchestre et se mit à tourner furieusement la manivelle. C'était un vieil instrument qui datait sans doute des premiers temps de cette abominable invention. De trop longs services avaient peu à peu dépouillé son cylindre de la plupart des notes qui le hérissaient dans l'origine. En conséquence de ces lacunes, après avoir poussé des sons criards et traînants, pareils au gémissement d'une roue mal graissée, l'instrument se taisait tout à coup, puis reprenait brusquement l'air interrompu, à la moitié d'une des mesures suivantes, pour se taire et recommencer de même jusqu'à la fin du morceau, quand le morceau avait une fin. On peut juger des charmes d'une semblable musique. Ce fut la classique caravane du Caire qui fut exécutée par notre virtuose, au grand déplaisir de l'Angora, son nouveau pensionnaire. La pauvre bête, peu habituée aux concerts de cette espèce, s'agita si désespérément au fond du panier où elle avait été déposée dans un coin du théâtre que son domicile d'osier se renversa et se mit à rouler sur la scène, comme si le marquis eût renouvelé sur elle les prodiges harmoniques opérés par Amphion sur les animaux si mélomanes de son temps. Enfin, lorsqu'un son infiniment trop prolongé, qu'on peut écrire par le mot « coin » et qui fut suivi d'un silence indéfini, eut annoncé à l'artiste que cette grotesque ouverture était finie, autant que possible, il déposa l'horrible instrument, retroussa la toile qui cachait le théâtre, s'avança gravement, salua 3 fois les assistants et fit l'énumération des nombreuses merveilles qui allaient passer sous leurs yeux. « C'est bon !» s'écrièrent quelques voix. « Commencez ! Commencez !» Le spectacle commença par la préface ordinaire. Les cabrioles, les grands écarts, les cerceaux, les têtes en bas, les renversements, les dislocations, les contorsions de toutes sortes que nous avons décrites ailleurs. Attitude contre nature qui donne au corps la forme d'un compas ouvert, d'une paire de ciseaux, d'une équerre, d'un I à rebours, d'un X, d'un Z, d'un C, d'un V, d'un Y, d'un O, etc., et auxquels les malheureux enfants de la troupe avaient été dressés dès leur plus tendre enfance. De bruyantes exclamations « Assez, assez, passez autre chose !» prouvèrent bientôt l'horreur qu'un tel spectacle inspirait généralement. Le marquis exécuta, sans plus de faveur, quelques tours de gibecière, puis se hâta de passer à la démonstration des phénomènes vivants qu'il avait improvisés de manière si ingénieuse. Il enleva d'abord la tenture qui dérobait aux yeux le colosse de Rhodes et la naine du Kamtchatka. Voici comment s'était opérée cette double métamorphose. La reine des îles Salmigondi avait fait disparaître la moitié inférieure de son auguste personne dans les profondeurs d'un tonneau drapé en forme de piédestal. Elle était censée se tenir debout sur cette base élevée. Afin d'augmenter le prestige, 2 souliers étaient posés devant elle, au niveau de son buste. L'espèce de tunique boréale qu'elle avait endossée dérobait sous ses plis tombants l'orifice de cette chaussure vide et n'en laissait apercevoir que les 2 extrémités. Ainsi réduite à sa plus simple expression, avec sa tête démesurément grosse, son corps trop large, ses bras trop longs, sa toque de plume de coq, sa figure enluminée et les grâces lilliputiennes qu'elle affectait, la prétendue naine offrait encore la plus abominable caricature qu'il soit possible d'imaginer. Panouille avait accompli le prodige inverse en montant sur de longues échasses dont la tige était chaussée de longues bottes à l'écuyère, gonflées de paille, où se perdait le bas d'un pantalon rallongé pour la circonstance. Avec sa tête devenue trop petite pour de si longues jambes, avec ses bras trop courts, son buste trop mince, son habit trop étroit, qui ne sortait point à coup sûr des ateliers du Mans, enfin avec ses énormes moustaches, ses immenses éperons, sa canne de 8 pieds, sa figure bariolée et son chapeau à claque, le soi-disant colosse de Rhodes était, sans contredit, le digne pendant de la naine. Le marquis les présenta comme le mari et la femme, invoqua Gulliver pour preuve de leur double nationalité, et pria ses époux si bien assortis de montrer au public leur petit savoir-faire. La naine salua gracieusement les spectateurs, minauda comme une enfant mal élevée qu'on prit en société de quelques récitations, et porta la main à son cœur en signe d'émotion profonde. Le marquis l'encouragea avec bonté, réclama l'indulgence pour elle, et saisissant son orgue de barbarie, donna à la bayadère du pôle arctique le signal de la danse qu'elle devait exécuter à la façon des nations hyperboréennes. La naine, agitant alors son buste au-dessus du tonneau, opéra un mouvement rapide d'oscillation de droite à gauche qui passa, comme toujours en pareil cas, pour être la véritable danse des naturels de son pays. Elle faisait claquer en même temps, à la hauteur de sa tête, les castagnettes qu'elle tenait à la main, tandis que le marquis jouait de son côté les lambeaux qui restaient à son orgue de femme sensible et de fanfan à la tulipe. Les mouvements réitérés de la naine imprimés à son buste, sous prétexte de danse de caractère, dérangeant peu à peu les fallacieux souliers, les poussèrent finalement à terre, au risque de détruire tout à fait l'illusion. Mais rien ne déconcertait le saltimbanque. Il assura que les nations polaires avaient pour habitude de danser les pieds nus, l'escarpin n'ayant pas encore pénétré jusque chez elles. Du reste, la naine termina son pas de caractère comme elle l'avait commencé et continué, avec ce sourire stéréotypé que les danseuses donnent à leurs traits pendant leurs exercices chorégraphiques, et dont cependant, sans qu'elle s'en doute, la grâce de convention est si disgracieuse par sa fixité même. « Assez, assez !» crièrent quelques spectateurs, à qui une secrète impatience faisait désirer du nouveau. Le moment était venu pour le colosse de Rhodes de développer ses propres agréments. Appuyé majestueusement sur son long bâton et la main gauche posée sur la hanche, le colosse débuta par tourner lentement sur lui-même comme un lièvre à la broche, tout en prenant diverses attitudes pour se faire admirer sous toutes ses faces, à l'exemple de ces figures de cire que les coiffeurs placent dans leur devanture sur un mobile pivot. Le colosse s'arrêta ensuite, salua le public avec sa canne, la pendit à sa boutonnière, s'adossa au mur pour consolider la longue personne et exécuta les parodies gutturales qui suivent. Le colosse battit une marche accélérée sur son menton en frappant dessus avec rapidité du revers de ses mains recourbées en forme de marteau, de manière que ses lèvres, serrées fortement l'une contre l'autre, s'ouvraient vivement au choc et se refermaient d'eux-mêmes et produisaient une succession irrégulière de petits clapotements dans le rythme de « Bon voyage, cher Dumollet ». C'était une chanson fort à la mode du temps de l'Empire, sur laquelle les tambours de cette époque ont fait gagner bien des batailles à nos héroïques soldats. Le colosse imita ensuite, sans employer d'autres instruments que sa bouche et son nez, le son du cor, de la trompette, du trombone et du cornet à piston. Le colosse de Rhodes imita également, par le même procédé buccal, le cri du coq, de la poule, du canard, de la perruche et du dindon, le chant du merle, du rossignol et du serin, la voix du chien, du chat, de l'ours, du tigre, du bœuf, du mouton, du cheval et de l'âne, enfin le bruit de la scie, du rabot, de la lime, du champagne qui glouglousse, de la soupe qui bout, de la côtelette qui grille et du beurre qui gémit dans la poêle à frire. « Assez, assez !» crièrent des voix encore plus nombreuses que la première fois. Le docile marquis se hâta d'allumer les chandelles intérieures de la lanterne magique. Pendant ce temps, les deux filles aînées de la reine des îles Salmigondi se disposèrent à occuper l'attention d'une manière aussi poétique qu'originale. Privées des cordes, des balançoires, des cerceaux et des guirlandes de papier dont se composait le matériel incendié de leur principal talent d'agrément, Zéphirine et Pamela n'avaient encore payé aucun tribut au plaisir de l'assemblée. Ces deux jeunes artistes se placèrent donc l'une derrière l'autre, de façon que du fond de la salle, on n'en aperçut qu'une seule. Celle du premier plan chanta « Ma Normandie » d'une voix rauque et chevrotante, tandis que celle du second plan, passant ses bras sous les bras que la première ramenait derrière elle pour les cacher, accompagnait la chanteuse de gestes incroyablement burlesques. Les mêmes cris « Assez, assez !» de plus en plus nombreux interrompirent l'odieuse romance dès le second couplet. Le marquis de la Galoche commença aussitôt l'explication de la lanterne magique, aux lunettes de laquelle se pressèrent quelques curieux. Sa lanterne comprenait une vingtaine de tableaux dessinés et enluminés de la façon la plus comique. On remarquait dans la quantité, savoir l'image inévitable de Monsieur Soleil, de son épouse Madame la Lune et des Mesdemoiselles les Étoiles, leurs filles, exécutées d'après nature au dire du saltimbanque par le célèbre Monsieur Arago. Le portrait véritable du juif errant, que le marquis avait eu l'honneur, disait-il, de rencontrer dans ses nombreux voyages. La superbe tentation de Saint-Antoine, consistant en une feuille de papier blanc où rien n'était tracé, mais où, selon le marquis, un peintre de talent eût pu tracer beaucoup de belles choses, et notamment ladite tentation. Une seconde feuille de papier blanc, à l'une des extrémités de laquelle on distinguait seulement la queue d'un dernier cheval qui fuyait, et vis-à-vis, à l'autre extrémité, la pointe menaçante d'une première baïonnette qui s'avançait. Ces deux objets étaient censés représenter la grande bataille de Marengo. La baïonnette figurait l'armée française et la queue du cheval indiquait l'armée ennemie. Plusieurs cadres complètement veufs des images que l'incendie avait dévorées, mais dont le démonstrateur donna l'explication ni plus ni moins que si ces merveilles de l'art eussent été présentes, en se servant comme pour le reste, de la formule invariable « ceci vous représente », etc. Le saltimbanque allait poursuivre, mais le cri « assez !» fut poussé enfin par l'unanimité des spectateurs. Il était clair que l'assistance désirait vivement l'exhibition des frères siamois, dont le marquis avait annoncé la vue pour la clôture. Jean-Paul et Petit Jacques entendaient tout cela sous le grand drap qui les recouvrait encore. Il leur semblait même reconnaître les voix qui s'obstinaient à réclamer leur apparition, et cette circonstance bouleversait leur esprit. Ils étaient comme anéantis. Cédant alors à l'impatience universelle, le marquis de la Galoche s'approcha d'eux, et de sa plus haute voix de charlatan, se mit en devoir de les expliquer à leur tour. Il se fit un silence solennel qu'interrompirent seulement quelques rires étouffés. « Et maintenant, messieurs et dames, s'écria le démonstrateur, nous allons passer à quelque chose de 100 fois plus curieux que tout ce que nous venons d'avoir eu l'honneur de vous offrir. Ceci vous représente les véritables frères siamois, superbes enfants que la nature, toujours ingénieuse, a ornés de 2 bras seulement, de 4 jambes, d'un seul corps, de mauvaises têtes, mais d'un excellent cœur, j'aime à le croire. Ce phénomène étonnant est même assez remarquable, que le hasard m'a fait rencontrer dans mes nombreux voyages, est le seul et unique de son espèce qu'on possède en Europe. Si vous en êtes content, faites-en part à vos amis et connaissances. Je recommande mes siamois à la bienveillance de l'honorable société, ils la méritent à tous égards, ce sont à présent les meilleurs sujets de la troupe. » En prononçant ces derniers mots, sur lesquels il appuya d'une manière toute particulière, il retira vivement le drap qui les cachait. Vous ne pouvez imaginer le prodigieux effet que causa leur vue. « C'est lui ! Ce sont eux ! Ah, Dieu ! Dans quel état ?» Telles furent les exclamations qui se croisèrent. Nos héros comprirent aisément qu'ils étaient en pays de connaissance et qu'on les avait devinés malgré leur déguisement. Ils voulurent s'enfuir tant ils avaient de confusion. Mais le moyen de faire un pas, emmailloté comme ils l'étaient. Ils baissèrent tristement la tête sans oser regarder devant eux. Pendant ce temps, une main amie les débarrassait à grands coups de ciseaux de leur grotesque accoutrement, et bientôt ils se sentirent libres. Ils s'enhardirent alors jusqu'à lever les yeux, et les premières personnes qu'ils aperçurent « Ah, mes amis, pourquoi vous tiendrais-je plus longtemps en peine ?